Bonjour, nous sommes le lundi 11 mars, il est 14h, vous écoutez Radio Campus Paris et sur l'île de Faro en Suède aussi, c'est l'heure de la relève.
Voudrais être footballeur professionnel, styliste.
Pilote d'avion de chasse pour m'engager dans l'armée et défendre la population et tout ça.
Bah, je voudrais devenir peintre, chef cuisinier, chef de commerce, biologiste.
La relève sur Radio Campus Paris.
Bonjour, La Relève, c'est l'émission qui s'intéresse aux premières fois ou presque, pourvu qu'il y ait du talent et que ça nous donne envie de connaître la suite. Aujourd'hui, on va parler théâtre avec un metteur en scène sacrément audacieux et avouons-le, on adore ça. Bonjour Léonard Maton, merci d'être venu avec nous aujourd'hui dans le studio de Radio Campus et c'est un merci particulier puisque vous n'avez rien à vendre.
Absolument rien. Je viens pour le pur plaisir de parler à ce micro.
Et je peux le dire, ça n'a pas été simple. Alors double merci, voire triple merci. On a eu une accumulation d'erreurs de ma part. Donc vraiment, merci à vous d'être là. Vous avez été à l'affiche, enfin une de vos créations était à l'affiche cet hiver au théâtre de l'Atelier. Ça s'appelle Face à Face et c'était une adaptation d'Ingmar Bergman.
Tout à fait, d'un film réalisé en 76 et qui était au départ un téléfilm, qui est devenu un film qui l'a mené jusqu'aux Oscars puisqu'il était nominé en tant que réalisateur et Liv Ullmann, son interprète principale, était nominée en tant qu'actrice. Ils n'ont pas eu l'Oscar au final, l'un comme l'autre, mais voilà, c'est un téléfilm qui a eu une belle carrière.
Et comment on explique qu'un tel film ne soit pas disponible aujourd'hui, très difficile à trouver?
J'imagine qu'il y a des problèmes de droit, tout simplement.
Alors pour ce spectacle est fini à Paris, va tourner, on peut le voir ailleurs si avec le podcast des gens nous écoutent loin.
Il y a des dates de tournée tout à fait là en mars et en avril, le 16 mars à Sens.
Dans Lyon ?
Dans Lyon, tout à fait, on est une compagnie basée dans Lyon.
C'est vrai ?
Ouais.
C'est drôle.
On continue...
Je viens de Sens dans Lyon, c'est pour ça.
C'est vrai, d'accord. Et ensuite on continue dans Lyon, on continue d'abord à Compiègne le 2 avril, ensuite à Nevers le 9 avril. Et à Auxerre, on termine la saison le 11 avril. Donc si j'ai quand même un petit truc à vendre, voilà, c'est ces dates de tournée.
Et pourquoi vous avez mis votre compagnie dans Lyon ?
Parce que le co-directeur, on est deux co-directeurs de cette compagnie, le co-directeur s'est installé près de Charny.
D'accord.
Dans Lyon, donc.
Charny dans Lyon, où longtemps a vécu Alain Delon.
Exact.
Voilà. C'était le côté anciens iconés, vous irez regarder dans le dictionnaire ce que veut dire iconés, vous saurez. Et pour Paris, c'est fini ?
Et pour Paris, c'est fini. Oui, on a eu quand même trois programmations puisqu'on a commencé à la mi-décembre au Théâtre 13, Théâtre Municipal du 13e arrondissement. Puis ensuite, on est passé au Plateau Sauvage début janvier où on a fait quelques représentations voilà, dans ce nouveau lieu magnifique ouvert par Laetitia Guédon cette année.
Qui se trouve
Qui se trouve rue des Plâtrières. C'est l'ancien 20e théâtre qui est devenu... elle a récupéré et le théâtre et le centre d'animation et elle en a fait vraiment une plateforme de création avec des programmations beaucoup plus courtes, des programmations de spectacles beaucoup moins avancées. Nous, on faisait partie des spectacles les plus avancés puisque nous, on était créés, puisqu'on a enchaîné les plateaux sauvages et ensuite, on est parti au Théâtre de l'Atelier dans cette magnifique salle sur la butte Montmartre.
Ça veut dire que quand vous avez commencé au Théâtre 13, vous ne saviez pas du tout qu'après vous iriez...
C'était quand même trois semaines avant, il valait mieux. On avait conçu comme ça cette production, ce projet, à la fois donc avec un réseau de théâtres publics, municipaux, et puis ensuite un réseau privé, le Théâtre de l'Atelier, puisque Emmanuel Berco faisait partie de la distribution et avait beaucoup intéressé le précédent directeur qui depuis est parti, Didier Long.
Comme metteur en scène donc de ce spectacle, vous êtes aussi l'adaptateur, mais vous êtes aussi le metteur en scène. Comment on est, dans quel état on est quand on sait qu'un spectacle ne sera plus jamais joué ?
C'est amusant que vous me posiez la question parce que tout à l'heure j'étais en ligne avec.
On vous a demandé de jouer à Avignon cet été.
Non, pas cet été, mais pour la saison suivante, pour la saison 2020-2021, on discutait avec un bureau d'accompagnement artistique de l'idée de reprendre justement ce spectacle pour la saison 2020-2021.
Ah oui, donc pour vous, c'est pas fini.
Non.
On sait jamais. Il y a les mises en scène, elles peuvent revivre et exister.
Quand elles plaisent, comme cette mise en scène a plu, ouais, pourquoi pas. C'est plutôt joyeux de se dire même que d'ici un an et demi, deux ans, on va retravailler sur ce matériau en ayant grandi, en ayant pris du recul. Parce que c'est vrai que quand d'un seul coup, il faut se lancer à partir du mois de. Nous, on a commencé le 1er novembre les répétitions. Donc on a eu un mois et demi de répétition avant la création à la mi-décembre au Théâtre 13. 93, et ben on est le nez dans le guidon, on voit rien, on accumule tous les embêtements possibles, parce qu'il y a deux vidéoprojecteurs, une caméra, le câble qui marche pas, le vidéoprojecteur qui peut pas se mettre en douche, enfin comme ça au-dessus de la scène, enfin voilà, on accumule des problématiques purement bêtement techniques, logistiques, des inquiétudes de comédiens, et c'est plutôt joyeux de se dire, oh, dans deux ans, on va peut-être reprendre plus posément, plus tranquillement. En tout cas, on va tout faire pour, en tout cas.
Est-ce qu'on est sûr que ça sera plus posé ou est-ce que c'est comme tout dans la vie,
on dit toujours ça et que ça sera quand même à l'arrache. Le bordel, comme c'est toujours.
Et sinon, un spectacle, il y a des spectacles que vous avez joués, que vous avez montés dans le passé, dont vous, a priori, vous n'allez pas rejouer. Vous avez quel rapport avec eux? C'est le passé, il y en a, vous êtes triste de vous dire que vous ne les reverrez jamais?
Oui, bien sûr.
Est-ce qu'il y a une nostalgie, en fait, de ce qu'on a fait?
C'est un truc, d'ailleurs, que Ingmar Bergman, donc, qui est l'auteur, je ne sais pas si ça a été dit, l'auteur de ce texte, de ce scénario, si on l'a dit, voilà, c'est une problématique qu'il a beaucoup abordée, puisqu'il a fait deux livres principaux qui sont sur son métier, hein, j'entends, L'Interna Magica, où il dit qu'il ne revoit jamais ses films et qu'ils font partie justement de son passé, qu'il n'est absolument pas dans ce processus de nostalgie. Et ça donne un artiste comme ça en plein milieu de sa création, puisque je crois qu'il l'a écrit dans les années 70. Et il a également écrit un livre magnifique que je recommande à tout le monde de lire, enfin quiconque s'intéresse un petit peu au théâtre et au cinéma, qui s'appelle Images, qui date des années 80, où là il avait décidé d'arrêter de réaliser, puisqu'il a très peu réalisé dans les années, à partir du milieu des années 80, il a très peu réalisé, et il revoit tous ses films, et il commente, et il donne bon, non seulement des anecdotes, mais aussi son ressenti immédiat de réalisateur qui revoit les films, avec une tentative d'objectivité dessus et une immense nostalgie puisque ça fait ressortir des émotions très fortes pour certains. Enfin, il y a comme ça parmi les plus
très violent,
il y a des pages qui
ouais.
sont magnifiques, mais magnifiques sur la description du tournage de Fanny Alexandre avec son comédien, vieux comédien depuis le début, Gunnar Bjornstrand, qui l'accompagne depuis les premiers films et qui a Alzheimer et qui donc n'arrive pas à se souvenir de son texte. La description de ce metteur en scène qui essaye de faire à son comédien son métier et le comédien qui se heurte à ce problème, cette maladie et qui n'arrive pas à sortir son texte sont absolument déchirants.
Question piège, dans ce livre, il parle de face à face ou il ne l'avait pas encore fait?
Alors il en parle, il l'avait fait, il en parle, il passe très rapidement dessus. Il l'a un peu renié ce film. Il l'a renié parce qu'il considérait d'une part qu'il avait un peu raté les rêves, il citait systématiquement Tarkovsky comme le grand réalisateur des rêves et il a sans doute raison. C'est pas là où Ingmar Bergman excelle et les rêves sont très importants dans ce scénario.
Il n'y a sûrement rien de plus dur à faire au cinéma que de faire un rêve sans tomber dans le cliché un peu.
Mais surtout que lui, son truc, c'est d'aller chercher en gros plan la vérité. Tarkovsky est beaucoup plus un contemplatif, un onirique. Mmh. Et donc, il y a une certaine logique à ce qu'il n'ait pas totalement réussi à faire ce qu'il voulait. On lit beaucoup, des choses beaucoup plus intéressantes dans Devenir, qui est l'autobiographie de Liv Ullmann.
Qui
est l'actrice. Et elle écrit Devenir durant le tournage de Face à Face. Donc elle en parle finalement avec beaucoup plus d'informations que Images.
Vous en êtes servi, vous, pour écrire l'adaptation?
Je m'en suis servi comme d'une source d'inspiration, évidemment. Elle termine Devenir, Liv Ullmann termine le livre, son autobiographie Devenir, en citant un échange qu'elle a avec Ingmar Bergman, ce sont vraiment les derniers livres du bouquin, où elle dit, où il lui dit, ce sera comme un scalpel. Les gens aimeront ou n'aimeront pas, ce sera chirurgical. La séparation entre les deux sera radicale. Et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec cette pièce, c'est-à-dire que ça va puiser tellement dans des choses personnelles chez chaque spectateur en tant qu'individu qu'on a eu des réactions très très fortes, plutôt positives heureusement, mais aussi des choses très négatives de gens ne supportant pas du tout qu'on parle de sujets aussi durs.
Alors de quoi ça parle, parce que quand même, voilà, on n'en a pas encore rien dit.
C'est vrai.
Mais moi j'aime bien qu'on raconte pas trop l'histoire et qu'on soit plutôt dans une évocation. Mais là quand même c'était très particulier. Donc c'est une pièce, c'est l'histoire d'une femme qui est médecin, qui est psychiatre, qui est agressée. qui à partir de là, si moi j'ai bien compris, parce que je suis pas sûr, et ça me gêne pas de pas avoir forcément tout bien compris.
Oui, mais ça me gêne pas non plus, parce part dans une comprend pas tout.
Elle est dans une espèce d'état entre la réalité, le rêve, où elle revit des choses, et ça se mélange avec avec le présent.
Ouais.
Comment vous l'expliqueriez ? Et jusqu'à une renaissance finale incroyable.
Expliquer, c'est difficile parce que je pense que c'est une de mes sources d'inspiration visuelle au-delà de Bergman et de peut-être de Tarkovsky aussi, ça a été David Lynch. Il y a un petit côté Mulholland Drive. Il y a un côté Mulholland Drive. Il y a des apparitions comme ça de personnages presque grotesques. C'est un peu curieux dans la carrière de Bergman, ce film. Il est un peu à part. Ça, c'est vrai. Et alors, ça parle donc, oui, d'une psychiatre qui, d'abord, avant même d'être agressée,
pas très
en
forme,
sent qu'il y a quelque chose. Elle porte un masque. Ça commence avec une scène avec une patiente de l'hôpital qui lui présente un miroir en lui disant. Tu ne te rends pas compte, mais tu es mal, tu es aussi mal que moi, finalement. Et elle refuse absolument de voir cette réalité-là, cette vérité-là. Et alors, point de vue purement d'information, elle arrive, cette psychiatre, elle est à un point de sa vie où tout va bien, c'est une mère accomplie, sa fille est en camp d'équitation durant l'été, son mari qui est un chercheur talentueux fait des conférences aux États-Unis. Tout va bien. Elle vend sa maison et les travaux sont en cours dans sa nouvelle maison. Et donc, durant ce temps d'été, puisque on est durant l'été, elle va emménager quelques semaines chez ses grands-parents. Et en fait, c'est presque plus cet événement-là d'aller emménager chez ses grands-parents qui va faire ressurgir chez elle des choses refoulées de son inconscient qui, accumulées avec en effet une agression et tentative de viol, un viol d'ailleurs, on peut le dire, eh bien, vont d'un seul coup la faire basculer dans le suicide. Et elle va donc tenter de se suicider en prenant des médicaments. Et durant sa phase de réveil, puisqu'elle est prise en charge à temps et sauvée...
Elle est médecin, donc elle connaît du monde.
Elle est médecin, elle connaît du monde.
J'essaie de mettre un peu de légèreté pour les auditeurs qui...
Oui, non, mais je dirais pas que ce n'est que... c'est surtout bouleversant, en fait.
C'est une histoire bouleversante.
C'est bouleversant.
C'est bouleversant d'humanité.
On peut rire à certains moments, mais on rit parce qu'on se reconnaît. C'est d'ailleurs la source du rire très souvent. On se reconnaît dans ces situations-là. Quand on va mal, les personnages de Fedo vont très mal la plupart du temps. Là, c'est vrai que ça creuse un petit peu dans des recoins de chacun qui sont au niveau du cœur, du ventre et du cerveau. Mais voilà, elle va surtout faire un voyage initiatique extrêmement... extrêmement riche, onirique, où tous les motifs des médecins, où tous les motifs de l'enfance, les parents, les grands-parents, la fille vont ressurgir, des clowns, des chanteurs comme ça qui passent, et puis tout ça accompagné par un ami médecin. Elle va en fait faire, à travers ses rêves, sa propre analyse.
Et alors, vous, justement, je ne vais pas vous demander de faire votre analyse, mais pourquoi avoir adapté une pièce de théâtre plutôt qu'une pièce pourquoi avoir adapté un film plutôt qu'une pièce de théâtre? Il y avait plus de texte qui vous intéressait?
Non, c'est que j'adore lire des textes, j'adore lire des textes qui sont tout aussi bien de la littérature que du théâtre, que des scénarios. Là, je suis tombé sur ce texte-ci et je me suis dit, ça a une puissance théâtrale, en particulier là, les rêves, justement, ont une puissance théâtrale tel qu'il me paraissait absolument nécessaire de le mettre en scène.
C'est quoi, c'est dans votre mise en scène, il y a plus d'un moment, visiblement dans le film, que moi j'ai pas vu, j'ai pas eu la chance de le voir, il y a des moments où la frontière entre le rêve, la réalité, tout se brouille. C'est un peu la quintessence du théâtre, ça aussi, c'est un espace où on joue avec le réel, alors, où on joue le réel.
Oui, c'est exactement le cas dans le texte. Et je pense que c'est pour ça que Bergman pouvait avoir tendance à dire qu'il avait un peu raté ses rêves, la réalisation de ses rêves, c'est que dans le film, la séparation est claire. Cinématographiquement, l'image, la lumière, les costumes sont radicalement différents. Tandis que dans le texte, il y a même des moments où il écrit des didascalies qui ne servent qu'aux acteurs, du type, il dit Jenny, son personnage principal donc s'appelle Jenny. Jenny a un dialogue avec un autre personnage et Jenny se demande, écrit-il, se demande pourquoi est-ce que ce personnage est dans sa chambre la nuit un 12 juin ? C'est évidemment quelque chose qu'on ne va pas montrer au spectateur, si ce n'est que c'est une indication pour la comédienne de se poser la question de la réalité, du caractère tangible de ce qu'elle voit. Et c'est justement cette frontière floue entre la réalité et l'imaginaire qui m'a intéressé.
Est-ce que quand on adapte, puisque vous avez adapté le texte, vous ne l'avez pas trouvé tel quel ?
Il est relativement proche. Le film dure
3h30. On
a beaucoup resserré puisqu'on a un spectacle d'1h45-50 à peu près.
Certains critiques vous ont reproché d'être encore trop long.
Oui,
ils avaient tort.
Alors, je ne sais plus exactement quand est-ce que vous l'avez vu, mais en arrivant à l'atelier, on a raccourci de 10 minutes.
Moi, j'ai vu l'atelier.
On a raccourci au bout d'une dizaine de jours. On a réussi à trouver vraiment ce qui... C'était très difficile de couper parce que chaque élément était une pièce du puzzle, du mécanisme, de l'engrenage, voilà, qui faisait basculer le personnage dans cette dépression et dans cette volonté de suicide et qui la faisait remonter. Donc couper le moindre élément risquait d'enlever une roue de l'engrenage et ça a été très difficile. Mais on a réussi comme ça à couper 10 minutes histoire de redynamiser ce qui en effet au niveau des critiques avait pu paraître au départ un petit peu étiré, aussi dû au fait qu'il y a énormément de va-et-vient de meubles.
Oui, ça bouge.
Ça bouge sans cesse.
C'est très mouvant, un peu comme un esprit qui pense et qui n'arriverait pas à s'arrêter de penser.
Ouais, rien n'est figé. Et même dans la direction d'acteur, on a travaillé là-dessus, sur le fait que les intonations, les volontés, les motivations des personnages, les places même par moment. Bon, il y avait des lumières un peu précises, donc il fallait quand même que les places soient relativement précises, mais j'ai tenté au maximum de laisser trouble certaines choses pour que ressurgisse une forme de vérité.
Côté
Et bien voilà, il n'était pas content. C'était Daniel Balavoine, Vivre ou survivre. Et ça a un rapport avec le spectacle, on en parle tout de suite, avec Léonard Maton.
La Relève, tous les lundis à 14h sur Radio Campus Paris.
Alors ce clin d'œil, cet extrait musical était un clin d'œil parce qu'il y a un moment dans votre spectacle, il y a un de vos acteurs, Thomas Gendronneau, je ne me trompe
tout
pas, c'est
fait.
Bien lui, je crois que je l'ai reconnu après.
C'est lui, super Thomas.
Chante Balavoine et comme on n'a jamais chanté Balavoine. Il arrive à faire frissonner une salle entière, je pense.
Il le chante sans micro, c'est-à-dire qu'il donne tout, puisqu'il faut remplir une grande salle et que la guitare est sonorisée. Mais il le chante sans micro, lui, donc il donne tout le cœur de cette chanson. Moi, ça m'intéressait d'avoir...
Qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Parce que Balavoine, Bergman, ça rime, c'est ce que vous venez de me dire. Ça commence par un B.
Ouais, aussi.
Sinon, parce que c'est d'un côté le cinéma le plus intello et la chanson populaire, c'est une collision super intéressante.
Mais je trouve que c'est pas si intello que ça, Bergman, en fait. C'est intelligent, mais on n'est pas. Il y a pas besoin. Je veux dire, il y a pas besoin de connaître. C'est pas. Ça ne parle pas de d'autres
c'est pas
cinémas.
Joyce, quoi,
c'est oui, voilà. On n'est pas dans du méta. C'est pas du théâtre qui parle du théâtre ou du théâtre qui parle de la littérature. Ça ne parle de rien d'autre que ce qu'on connaît tous finalement. Et après, c'est intelligent, c'est dense,
c'est
âpre.
C'est austère comme un pasteur suédois.
Voilà, absolument. Il était fils de pasteur suédois, donc c'est pas étonnant. Mais je trouve ça finalement assez simple. Et cette chanson « Vivre ou survivre » de Balavoine, elle a beau être en effet très populaire, elle pose quand même une vraie question toute simple, qui est celle de la pièce « Vivre ou survivre ». Le personnage principal traverse ce questionnement. Je travaillais sur Hamlet juste avant, en juillet
ouais,
dernier.
C'est une forme d'être ou ne pas être.
Hein, voilà,
lui aussi, elle, ouais.
Ouais.
Est-ce que quand vous l'avez écrit, quand vous l'avez adapté, vous m'avez dit que vous avez surtout coupé, vous pensiez en permanence à la mise en scène que vous alliez faire ou est-ce que la mise en scène, elle est née après?
Je pensais beaucoup à l'énergie que je voulais donner, au rythme que je voulais donner. J'avais décidé de travailler avec un scénographe qui s'appelle Yves Collet, qui est à la fois scénographe et créateur lumière, donc qui crée comme ça tout cet univers visuel. Je savais que je voulais très peu de meubles et qu'ils soient mouvants. Mais l'assemblage s'est vraiment fait au cours du travail de répétition parce que Yves Collet travaille comme ça beaucoup, c'est le scénographe de Emmanuel de Marcimota, il travaille beaucoup au théâtre de la ville, il a comme ça cette folie créatrice où on crée sur le plateau. Et j'adore ça aussi, j'adore travailler avec les comédiens comme ça. Donc une grande partie de la création s'est faite au fur et à mesure du travail. Ce que je savais, c'est ce que je voulais donner, évidemment, puisqu'on ne part pas sur un texte comme ça sans savoir ce qu'on va faire, surtout si au final, il y a cette dimension onirique très folle.
Ce que vous vouliez là, c'était un espace vide, une sorte d'espace de projection mentale.
Oui, tout à fait.
C'était ça que vous vouliez faire.
Avec cette multitude de lieux que le théâtre ne peut jamais représenter, comme un film peut le faire, avec cette multitude de personnages qui sont tenus par seulement 6 comédiens autour d'Emmanuel Berco. Voilà, il y a une dimension très théâtrale.
Emmanuel Berco, vous la rencontrez à quel moment dans ce projet? Parce qu'elle, sans être désagréable pour les autres, elle porte un peu le projet quand même. C'est elle qui donne le ton.
Bah,
elle est extraordinaire,
elle est là.
Moi, j'ai jamais vu une actrice comme ça.
Ouais, elle est là du début à la fin, c'est le pivot de cette scène, de cette pièce.
Elle n'est jamais hystérique alors qu'elle pourrait en faire des caisses.
Mais parce qu'elle est juste très vraie.
Elle est vraie, quoi.
Elle est d'une vérité absolue. Elle a besoin, d'ailleurs, de cette
vérité. Donc, vous vouliez travailler avec elle et vous lui avez proposé ce texte-là.
Je vais même vous dire, c'était d'abord elle, avant le texte. C'était elle et Bergman. Berco, Bergman.
Ah oui, il y a des trucs avec les B.
Il y a un truc avec les B, clairement.
et par rapport à ça, donc le rôle vous lui donnez, elle le dit oui tout de suite?
Elle dit oui tout de suite, elle me dit c'est exactement ce que j'ai envie de jouer en ce moment. Alors c'était il y a 2 ans, mais voilà, elle avait envie de ça.
Comment vous expliquez qu'en ce moment il y a beaucoup d'adaptations de films en théâtre?
Oui, il y a surtout beaucoup de Bergman parce que c'est le centenaire.
En ce moment, c'est pour ça qu'il y a un Fanny Alexandre aussi en ce moment à la Comédie Française. Vous l'avez vu?
Oui, je l'ai vu.
Vous l'avez aimé?
J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que Julie Delicat
très différent
avait fait,
du vôtre. Très différent du vôtre. Ils ont d'autres moyens.
Ils ont les moyens d'abord de la troupe, c'est la Comédie Française, ouais. Donc ils ont 20 personnes au plateau. C'est
il y a de l'argent,
des décors, magique. Évidemment.
Le mieux, enfin, on peut faire sans décor.
Bah je crois. Mais on avait deux styles de théâtre relativement différents, mais on se rejoint, Julie Deliquet et moi, vis-à-vis de Bergman, sur une chose qu'elle explique dans sa note d'intention, qui est qu'elle voulait travailler sur les différentes couches de réalité. Et elle y réussit très très bien, je trouve. C'était un peu la même tentative que moi, ce que j'ai essayé de faire en faisant aller des acteurs dans la salle, puisqu'il y a des acteurs qui commencent dans la salle, dans face à face. C'est quelque chose qu'elle fait également. Elle a magnifiquement travaillé sur un truc, je pense, c'est toute la fin où il y a une observation à l'avant-scène de ce qui se passe sur scène. Et il y a ce double univers de celui qui observe quelque chose qui se passe, comme des spectateurs regardant un film. Et ça, je trouve qu'elle l'a formidablement réussi, entre autres choses, parce que c'était plus faisable à la Comédie Française que dans les lieux où nous, on l'a créé. Nous, on est pas mal dans une... Il n'y a que deux couches de lecture, tandis qu'elle en a trois.
Et puis, vous avez une scène plus petite.
On avait une scène plus petite, évidemment.
Il s'agit pas de combien l'ouverture à la Comédie Française, mais c'est au moins deux ou trois fois plus grand.
Ça va être deux fois plus grand.
Au moins, vous êtes devenu, comment vous êtes devenu metteur en scène de théâtre ?
En commençant et en m'entendant dire que c'était pas mal et qu'il fallait continuer.
Ah oui.
Donc j'ai commencé à 20 ans en mettant en scène un malade imaginaire. On était très classique.
C'était où, à l'école ?
C'était en sortant d'école. Et c'est un projet qui a tenu 7 ans. On a fait pas mal de tournées. On a joué dans pas mal de lieux. Et puis ensuite.
C'était avant votre départ à Oxford ?
C'était après. Non. Moi j'ai été formé à Oxford et à Paris. Vers 18-19 ans. Et en fait, en sortant de l'école de Paris où j'étais, c'était les ateliers du Sud-Est, j'ai décidé comme ça de mettre en scène, ça m'intéressait, et j'ai mis en scène ce texte, et on m'a dit c'est cool, continue, donc j'ai continué, on m'a dit c'est bien, continue, donc j'ai continué. Et puis,
à quoi ça tient
un peu de confiance en soi, mais c'est vrai que c'est toujours bien de l'avoir de la part des autres aussi.
Avoir été assistant metteur en scène de Yasmina Reza, Raissimi, Gérald Garouti, c'est ça ?
Ouais.
Ça aide, ça... on apprend les observations.
On apprend bien sûr avec des gens qui ont 10, 15, 20 ans de plus que soi.
On apprend quoi ? Leur précision,
on apprend
tout ce qu'il faut
faire, tout ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, bien évidemment, on n'apprend pas tout parce qu'on commet soi-même des erreurs. Donc, on apprend après de soi-même. Mais Gérald Garouti, c'est quelqu'un avec lequel j'ai fait 3 spectacles. C'est vrai que j'ai vu vraiment une évolution dans son travail aussi et des styles très différents.
L'an dernier, vous avez ouvert aussi un lieu de spectacle à Paris, un lieu de spectacle immersif. J'ai eu des interviews où vous disiez que la France ne connaissait pas du tout le théâtre immersif. Alors, vous pouvez nous expliquer ce que c'est ?
Alors, le théâtre immersif, ce n'est pas un théâtre sous l'eau, comme je me suis entendu dire pendant longtemps. Non, là, ça commence à prendre, parce qu'il y a des expériences qui sont faites du type DAO. Alors, DAO, ce n'est pas vraiment du théâtre immersif.
Le truc qui est au Châtelet en ce moment ?
Ouais, qui s'est arrêté là, mais qui a été un peu compliqué à mettre en place. Oui, ça devait s'arrêter toute fin février ou début mars. Et puis il y a pas mal de pièces immersives qui sont dans les tuyaux, en train d'être montées à droite à gauche. C'est vrai que nous, on a créé, ma compagnie a créé le premier lieu dédié à ça sur 1000 mètres carrés
dans le 5e arrondissement de Paris,
et
le Jardin des Plantes, non,
vers la place Monge. Et le théâtre immersif, c'est en fait c'est du théâtre, c'est juste qu'il n'y a plus de salle.
D'accord. Et juste un dernier mot, il nous reste très peu de temps. Vous me dites si je dis une bêtise, le secret, donc...
Celui immersif,
oui. Je vais me mélanger parce que je vais aller vite. Donc votre compagnie qui porte le très joli nom, d'abord je voulais dire le nom de votre compagnie, c'est l'Entre des Rêves.
Entre deux rêves.
Entre deux rêves, voilà. Ouais, voilà, j'ai fait une erreur. Et vous organisez en ce moment toujours un concours d'écriture immersive ?
Tout à fait, on organise ce concours donc jusqu'à fin avril. Voilà, sur le site le-secret-paris.com, il y a toutes les informations sur...
Vous cherchez quoi, le Shakespeare du théâtre immersif ?
Absolument. le nouveau bel auteur, un auteur qui pourrait faire un texte contemporain, parce que c'est très bien d'adapter des grands textes, mais il y a aussi un théâtre contemporain immersif qui doit advenir.
Et vous le montrez, ce spectacle ?
Je le souhaite.
D'accord. Ouais. Merci beaucoup Léonard Maton d'être venu.
Merci.
Je crois que jusqu'au
vous.
Bout ça a été épique, on a eu plein de petits problèmes. On n'avait peut-être pas tout vu, mais voilà. Vous venez d'écouter La Relève saison 3, c'était le 11e épisode, si je sais encore compter. L'émission était toujours proposée, présentée dans un certain chaos par Christophe. À la réalisation, à la rigueur, il y avait notre ami Antonin. Vous retrouverez le podcast de cette émission sur le site de Radio Campus Paris ou sur notre page Facebook, comptez une petite quinzaine de jours. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve dans 335 heures, dans 15 jours. D'ici là, restez à l'écoute du programme musical de Radio Campus Paris. Et rendez-vous à 19h, c'est la matinale. Merci.